Lors du week-end, nous avons lu ce verset de Romains 12, 21 qui nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Que nous le voulions ou non, nous sommes au cœur d'un grand combat spirituel. De manière invisible, c'est le combat de Dieu contre Satan. Et puis de manière visible, c'est le combat du bien contre le mal. Et heureusement, dans sa parole, Dieu nous révèle et nous garantit qu'un jour, il mettra fin à ce combat. Un jour, Dieu, par sa toute-puissance, écrasera Satan et le dépouillera de toute capacité de nuisance. Et un jour, Dieu, par son esprit, achèvera la transformation des cœurs de ceux qui lui appartiennent. Et le mal aura alors totalement disparu de nos cœurs. Mais en attendant ce jour, nous continuons à vivre dans un monde où le mal existe et où Satan essaye par tous les moyens de détourner de Dieu tous ceux qui manifestent le désir de le suivre. Dans la Bible, Satan a de nombreux noms, en voici quelques-uns. Il est également appelé le diable ou le malin, le tentateur, l'accusateur. Et ce n'est pas un mythe, mais c'est un être spirituel qui existe vraiment. Alors, on sait assez peu de choses sur lui. À la lumière d'un texte de l'Ancien Testament, certains pensent que Satan était un ange très puissant, que l'orgueil aurait poussé à se révolter contre Dieu, comme l'ont fait, par ailleurs, certains anges que la Bible appelle des démons. L'imagerie populaire, elle, représente Satan souvent comme étant un petit bonhomme en collant rouge, avec des sabots, une fourche. Et puis cette représentation est tellement ridicule que souvent on se dit « mais bon, ça ne peut pas exister ». Ou si jamais il existait, il serait même, à cause de son ridicule, quelque part sympathique. Il y a des peluches, je sais pas, même on a des peluches pour les enfants qui représentent ça, un petit bonhomme avec des cornes et un col rouge. La Bible, elle, en aucun cas, nous dit que le diable est ridicule. Elle nous dit même que c'est notre plus grand ennemi. C'est un ennemi redoutable, car il essaie de nous dissimuler à quel point il est mauvais et destructeur. 2 Corinthiens 11, 14 nous dit ceci, « Satan se déguise en ange de lumière. » De quoi nous tromper? Pourquoi croire au diable et au démon? Voici trois raisons. Tout d'abord, le bon sens. Comment expliquer les concours de circonstances parfois tellement, enfin, incroyables qui permettent au mal de se produire et de s'étendre. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à la vie de Hitler, par exemple, mais c'est étonnant de voir le nombre de fois que Hitler a échappé de presque rien à des attentats. Mais pour vraiment presque rien. Et lui, il était même tellement conscient de cela qu'il était convaincu qu'une puissance veillait sur lui. Et cette puissance, ce n'était pas Dieu, bien sûr. Le cœur des hommes qui se sont détournés de Dieu est bien sûr très souvent responsable du mal. Mais derrière leur agissement, on voit aussi l'influence ou l'action de Satan. Les guerres, les tortures, les attentats, toutes les atrocités commises soi-disant au nom de Dieu. La pédophilie, les viols, les massacres, l'esclavage et les activités occultes ou sataniques. Ne pas voir Satan derrière cela, c'est être tombé dans le piège du diable. Et Charles Baudelaire, l'écrivain, écrivait ceci, « La plus grande malice du diable, c'est de nous persuader qu'il n'existe pas. » Une deuxième raison de croire à son existence, c'est l'expérience que nous faisons, un jour ou l'autre, lorsque nous manifestons le désir de nous rapprocher de Dieu. Alors, d'un côté, nous percevons que Dieu nous attire à lui, mais souvent, à côté de cela, nous rencontrons un certain nombre de difficultés à mettre en pratique ce désir de notre cœur de nous approcher de Dieu. Par exemple, nous décidons de prendre du temps pour lire la Bible. Et puis, ben voilà, le moment que nous avions programmé pour cela, dans notre planning, eh bien, voilà, n'est plus disponible. Peut-être que vous avez vous-même peut-être expérimenté cela. Vous décidez de venir ici, au parcours Alpha, et puis voilà, un imprévu survient. Un imprévu à votre travail vous retient, votre santé vous donne des soucis, on a besoin de vous quelque part. Et puis vous avez l'impression que c'est un vrai combat pour vous de venir jusqu'ici. C'est comme un peu comme nager à contre-courant. Vous connaissez l'homme, probablement cette histoire de cet homme qui roule sur l'autoroute. Et puis son téléphone sonne, c'est pas bien, mais il décroche quand même. Et puis c'est sa femme qui est là, très anxieuse, et qui lui dit « Mais chérie, je viens d'entendre à la radio qu'il y a une voiture qui roule à contresens sur l'autoroute A6. » Et puis lui, il est là « Oui, je sais, et il n'y en a pas qu'une, il y en a des dizaines. » Eh bien, c'est un peu ce qui se produit lorsque on décide de se tourner vers Dieu lorsque on se convertit. Vous savez, se convertir, c'est faire demi-tour. Eh bien, lorsque nous tournons le dos à notre ancienne manière de vivre sans Dieu et que nous décidons maintenant de nous tourner vers Dieu, c'est un peu comme si nous avançons à contre-courant de la vie. Parce que le diable va tout faire, lui, pour nous empêcher d'avancer. Et si possible même, il va essayer de nous faire reculer. Il nous faire faire demi-tour. Mais ça, heureusement, ce qui est formidable, c'est que Dieu nous dit que, quelle que soit l'opposition que nous allons rencontrer, Dieu va toujours faire en sorte que cette opposition ne soit jamais suffisante pour nous empêcher d'avancer avec Dieu. La troisième raison pour laquelle nous devons croire à l'existence de Satan et des démons, c'est parce que la parole de vérité, la Bible, nous dit qu'ils existent. Lorsque Jésus, par exemple, a commencé publiquement à manifester qu'il allait accomplir le plan de Dieu, la Bible nous dit qu'il a été tenté par le diable et que le diable a essayé de lui tendre des pièges afin qu'il échoue dans sa mission de sauveur du monde. On voit également qu'au cours de son ministère, il a chassé des démons et même dans le modèle de prière qui nous est donné, qu'on appelle souvent le Notre Père et que l'on voit par exemple dans Matthieu 6, nous prions en demandant à notre Père Céleste de nous délivrer du mal. Ce que certaines traductions de la Bible traduisent, parce qu'on peut le faire ainsi, on demande qu'il nous délivre du malin, qui est un nom du diable. Il y a trois erreurs, lorsqu'on pense au diable et aux démons, dans lesquelles nous ne devons pas tomber. Celle de refuser d'y croire, celle d'être attiré par Satan, et puis celle d'accuser Satan d'être le responsable de notre propre péché. Si nous refusons de croire à l'existence du diable, nous allons nous retrouver au cœur d'un combat, mais les yeux bandés. Parce que nous sommes incapables de voir notre plus grand ennemi. Vous savez, c'est un peu ce qui s'est passé avec le Titanic. Lorsque le Titanic faisait route dans l'Atlantique Nord, dans les jours qui ont précédé, ils ont reçu de nombreux appels radio qui leur disaient « Faites attention, il y a des icebergs sur la route que vous allez prendre. » Et en fait, ils n'ont pas voulu entendre ces messages, et en plus parce qu'ils s'y croyaient invulnérables dans ce magnifique bateau. Et bien pourtant, malgré tous les messages qu'ils ont entendus, lancés à pleine vitesse, en pleine nuit, ils ont percuté un iceberg. Et malgré leur sentiment d'invulnérabilité, eh bien, ils ont coulé. Ne pas croire au diable est un piège, tout comme celui d'être attiré par lui, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont attirés par lui. Moi, quand j'étais ado, j'avais des copains qui étaient attirés par le diable. Parce que certaines personnes croient que Satan ou d'autres puissances occultes peuvent leur venir en aide d'une manière ou d'une autre. Le spiritisme, la consultation des morts, l'astrologie, la sorcellerie, la divination, le satanisme et toutes sortes d'autres pratiques ésotériques ou occultes existent, mais Dieu nous met formellement en garde contre ces pratiques, en nous prévenant que aller dans cette direction-là ne fera que nous conduire au bout du compte à la mort et à la séparation d'avec Dieu. Et si jamais d'une manière ou d'une autre nous sommes mêlés ou nous avons été mêlés à ces pratiques occultes, eh bien sachons que c'est un péché qui nous sépare de Dieu et que nous devons y renoncer bien sûr, mais aussi demander pardon à Dieu pour cela. On peut en profiter pour jeter à la poubelle nos livres, nos gris-gris, porte-bonheur ou toutes sortes de choses soi-disant destinées à nous apporter une protection du monde invisible. Et ce qui est formidable, c'est vraiment cette opportunité ou cette exclusivité du message de l'Évangile, que même si nous avons été dans cette direction-là, si nous nous retournons vers Dieu et que nous demandons pardon, nous avons l'assurance que nous sommes totalement pardonnés par Dieu et que nous pouvons rentrer dans une communion avec Dieu. La troisième erreur, elle n'est pas mentionnée dans vos fascicules, mais c'est celle d'accuser Satan d'être responsable donc de notre propre péché. En Marc 7, 21 et 22, Jésus nous dit « En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » Satan n'est pas le seul responsable de tout le mal qui se produit dans le monde. Et lorsque nous commettons quelque chose qui est mal, un péché, nous ne pouvons pas dire, voilà, non, ce n'est pas ma faute. Parce que toujours, on est tous les mêmes. Essayons d'imaginer les fautes qu'on a pu commettre. Tous, nous arrivons à justifier cela d'une manière ou d'une autre. On peut dire, mais voilà, c'est sa faute, c'est lui qui a commencé. Ou bien, oui, mais j'étais en colère. Ah ben, la colère, ça justifie tout. Ou bien, oui, mais c'était pour une cause qui était juste. Eh bien, on a tendance des fois à accuser Satan d'être responsable de tout, même de ce qui sort de notre cœur. Lorsque nous péchons, nous devons reconnaître devant Dieu notre propre responsabilité et lui demander pardon sans chercher à fuir notre responsabilité derrière des excuses. Contrairement à Dieu, ça il faut qu'on le sache, le diable, lui, n'est pas tout puissant, et en plus il ne connaît pas toute chose. Donc il doit user de différentes tactiques pour s'attaquer à nous, parce que le diable va chercher à s'opposer à Dieu dans tous les domaines où il peut intervenir. Lorsque Dieu dit ce qu'il veut, par exemple, eh bien, Satan essaye de faire en sorte que se produise l'inverse de la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut construire, le diable veut le démolir. Ce que Dieu nous donne, Satan essaye de nous le reprendre. Ce que Dieu appelle à venir à lui, le diable essaye de leur barrer le chemin. Par rapport aux êtres humains, que Dieu aime tous sans exception, eh bien, faut savoir que lui, Satan, les déteste. C'est pour ça que faire un pacte, ou s'imaginer qu'on peut avoir un gain de lier quelque chose avec Satan, est vraiment un leurre, parce que Satan n'aime personne d'autre que lui. Nous allons survoler trois des tactiques favorites par lesquelles le diable essaye de nous détourner de Dieu. Il y a le doute, la confusion, l'accusation. Tout d'abord, Satan essaye de nous faire douter de Dieu. Et est-ce que parfois vous éprouvez certains de ces doutes? Dieu existe-t-il vraiment? Dieu est-il vraiment bon, vraiment puissant? Dieu s'intéresse-t-il vraiment à moi? Dieu a-t-il vraiment dit cela? Dieu m'a-t-il vraiment pardonné mon péché par Jésus-Christ? Dieu m'aime-t-il vraiment et pour toujours? Ce qu'on voit, c'est que dès le tout début de l'histoire de l'humanité, le diable a essayé de nous faire douter de Dieu. On voit dans le livre de la Genèse, qui rapporte donc les tout premiers temps de l'humanité, que Dieu avait fait connaître sa volonté. Et après cela, le diable arrive et dit, c'est en Genèse 3:1, il dit « Dieu a-t-il vraiment dit ? Oui, il a dit quelque chose, mais est-ce qu'il a vraiment dit ceci ? Le diable a même essayé de faire douter Jésus. En Luc 4, 3, le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Ce que le diable cherchait à faire naître en Jésus ici, c'était le doute. Si tu es vraiment, est-ce que tu es vraiment celui que tu prétends être ? Si vous êtes venu à Christ récemment, il va essayer de faire la même chose avec vous en essayant de vous faire douter de votre foi, par exemple. Oui, mais vu ce que tu vis, si tu étais vraiment chrétien, si jamais le Saint-Esprit était vraiment vivant en toi, les choses ne se passeraient pas comme ça, tu ne vivrais pas les choses comme cela. La première arme qu'il utilise, c'est le doute. Et son principal effort consiste à nous faire perdre confiance en Dieu. Le doute, une fois qu'il est là, produit la confusion. Et le diable aime semer la confusion dans nos esprits. Revenons à nouveau au tout premier moment de l'humanité. Alors que Dieu avait dit « Si vous ne respectez pas ce que je vous ai dit, vous mourrez », le diable s'approche et dit, en Genèse 3, 4, « Mais non, vous ne mourrez pas !» Il est en train de dire l'inverse, mais c'est faux. Le diable voudrait que nous oublions ce que Dieu nous a dit et que nous nous mettions à croire à ses mensonges. Il a, faut dire, pas mal réussi son coup, quand on voit l'histoire de l'humanité. Le diable fait circuler tellement d'informations contradictoires sur Dieu que beaucoup de personnes finissent par renoncer à connaître Dieu. Elles se disent « Oui, mais probablement que Dieu existe !» Mais elles se disent « Mais comment savoir qui il est ? Qui a raison ?» Il y a également tellement de mensonges qui circulent sur Dieu et sur sa volonté que certaines personnes finissent à croire cela et puis à rejeter Dieu en disant « Mais si jamais Dieu est comme ceci, si jamais Dieu veut réellement cela, moi je ne veux pas de lui dans ma vie. » Satan essaie également de semer la confusion en nous faisant croire que devenir chrétien, eh bien, nous fait passer à côté de la vie. Et ça, les jeunes sont particulièrement ciblés. Il essaie de nous dire, par exemple, « Mais tu vas être malheureux. » « Mais être chrétien, c'est être malheureux. Tu ne pourras plus mentir. Tu ne pourras plus coucher à droite ou à gauche. Tu ne pourras plus te droguer, plus te saouler. Ah là là, qu'est-ce que c'est triste, cette vie !» C'est vrai que devenir chrétien nous amène à renoncer à un certain nombre de choses pour Dieu. Mais renoncer à quoi ? Seulement au péché, qui détruit notre vie ou bien qui détruit la vie des autres. Et c'est justement en renonçant à ces péchés, à ces choses, que nous pouvons enfin goûter à ce qu'est véritablement la vie, une vie nouvelle et une vie en relation, en communion avec Dieu et avec les autres. Satan veut que nous doutions et que nous soyons dans la confusion au sujet de ce qui est vrai et de ce qui est faux, au sujet de ce qui est bon ou mauvais, parce qu'il sait que cela va nous amener à pécher, c'est-à-dire à nous détourner de Dieu pour suivre notre propre chemin, un chemin sans Dieu bien sûr. Et puis, lorsqu'on a fait un pas avec Dieu et qu'on réalise que nous avons péché, qu'est-ce qui se passe en nous ? Eh bien, c'est souvent un sentiment de honte. Nous avons honte devant Dieu, on se sent indigne de Dieu, et puis nous avons également honte vis-à-vis des personnes contre lesquelles nous avons péché. Nous prenons également conscience que nous avons rompu notre relation avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu s'est détourné, c'est nous qui l'avons rompu. Et puis nous allons probablement connaître un découragement et nous dire « Mais je suis trop indigne pour que Dieu m'aime. » Ou bien « Inutile d'espérer que Dieu va me pardonner mon péché après ce que j'ai fait. » Ou bien « Mais ça ne sert à rien de continuer à lire la Bible ou bien de prier, car de toute manière, je n'arrive pas à suivre Jésus. Et lorsqu'on est dans cette disposition-là, eh bien c'est à ce moment-là que le diable utilise sa troisième tactique, qui est l'accusation. Je ne sais pas si vous le savez, mais le diable vient d'un mot grec, diabolos, qu'on trouve dans la Bible. Et diabolos, ce n'est pas un nom propre. En fait, c'est un mot grec courant qui signifie le calomniateur ou celui qui accuse faussement. Eh bien, le diable veut utiliser la calomnie pour nous éloigner de Dieu. Il va essayer de nous éloigner de Dieu en accusant, par exemple, Dieu d'être responsable de ce qui ne va pas. Mais ça, c'est la faute de Dieu. Le diable accuse comme ça. Le diable également essaye de nous accuser devant Dieu en mettant en avant notre péché. Voilà, vous savez, nous, des fois, on fait ça, on dit, mais regardez lui, vous avez vu ? Et moi, j'essaie de lutter avec ça, enfin, contre ça, par rapport à mes propres enfants et même ce qu'ils subissent des fois à l'école. Et ou des fois, ils sont pointés du doigt pour telle et telle chose, mais on leur dit, mais quand des gens ne sont pas à l'aise, qu'est-ce qu'ils font généralement ? Pour pas qu'on regarde à eux et voir leur faute, ils montrent les autres. C'est ce que le diable fait. Et puis le diable met ce sentiment d'accusation aussi en nous. Il dit, mais je suis indigne de me présenter devant Dieu. Voilà ce que le diable produit en nous. Et ce qui est important dans ces moments-là, c'est qu'il nous faut savoir quel est, pour pouvoir résister au diable et à ses tentatives de nous éloigner de Dieu, il nous faut savoir quelle est en réalité notre position devant Dieu. Et voilà ce que nous dit la parole de Dieu au sujet de ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Colossiens 1, 13, il s'agit de notre Père Céleste, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Si jamais nous avons placé notre foi en Jésus, nous sommes maintenant placés sous l'autorité de Jésus et sous sa protection. Et nous savons que la victoire sera de notre côté car, selon Colossiens 2,15 par exemple, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Satan est un ennemi qui a été vaincu par Jésus, lorsque celui-ci a payé à notre place le prix de notre péché. Et l'accusateur ne peut maintenant plus nous accuser devant Dieu, même s'il peut encore faire des dégâts et nous attaquer. Eh bien, il a déjà perdu la guerre. Parce que nous vivons entre la victoire de Jésus à la croix et entre le moment où Jésus reviendra et mettra définitivement Satan hors de combat, la victoire finale. C'est un peu comme si nous vivions entre le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie et le jour de la victoire, le 8 mai 1945. Parce que à partir du moment où le débarquement a eu lieu, on savait déjà que la guerre était finie. On savait que la victoire était au bout. Mais pourtant, pendant encore une année, les opérations de nettoyage ont continué. Mais pourtant, malgré la difficulté du combat, tout le monde savait que la victoire était au bout. La croix, c'est le moment où notre ennemi a été vaincu. Et maintenant, nous sommes dans cette période où il y a les opérations de nettoyage, où Satan a déjà perdu, mais où il peut encore faire des dégâts. Nous, c'est la période dans laquelle nous vivons. Alors, comment nous défendre contre Satan, mais aussi nous défendre contre les poches de résistance du mal qui restent parfois dans notre cœur? Eh bien, Dieu lui-même met à notre disposition des armes défensives afin que nous puissions résister. Et nous allons nous appuyer sur le chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens. Éphésiens 6... Je commencerai ma lecture au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Une de ces armes que Dieu met à notre disposition, c'est la vérité. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Alors, une ceinture, c'est ce qui nous permet de maintenir notre équipement en place. Sans ceinture, tout tombe par terre et on ne peut plus avancer. Eh bien, la vérité, c'est-à-dire ce que Dieu nous révèle dans la Bible, est ce qui va nous permettre de tenir tout le reste. Connaître la vérité est notre meilleure arme, par exemple, contre la confusion. Satan est un menteur qui veut semer en nous la confusion, le doute, afin de nous éloigner de Dieu. Eh bien, imprégnons-nous de la vérité. Lisons la parole de Dieu afin de la connaître et accrochons-nous à ce que Dieu nous dit plutôt que de nous fier à nos émotions, hein, qui sont comme ça. Et puis aussi, plutôt que d'écouter nos doutes, et des fois des doutes qui sont soufflés par Satan. Verset 14, la suite. Enfilez la cuirasse de la justice. Une cuirasse, c'est ce qui empêche les choses de pénétrer en nous et de nous infliger des blessures mortelles. Eh bien, la justice est ce qui nous permet de vivre avec Dieu et nous devons nous abriter derrière cette justice. Tout d'abord, la justice que nous avons obtenue, c'est ce que nous dit la parole de vérité, la justice que nous avons obtenue par notre foi en Jésus-Christ. C'est grâce à son sacrifice que Dieu nous considère maintenant comme justes et que nous pouvons vivre en communion avec lui. Des fois, on est découragé parce qu'on se dit, mais comment est-ce que Dieu me voit? Eh bien, nous devons nous rappeler qu'aux yeux de Dieu, grâce à Jésus-Christ, nous sommes vus comme justes. Ça veut dire qu'on peut s'approcher de Dieu en tout temps. Cherchons également à être justes dans notre vie, c'est-à-dire à ne pas commettre de péché, bien sûr, par lequel nous construirions un mur entre nous et Dieu. Et puis, si nous avons péché, soyons justes en reconnaissant notre péché devant Dieu et en lui demandant pardon afin de rétablir notre communion avec lui. Verset 15, une autre arme. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de la paix. Les chaussures, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Eh bien, annoncer l'évangile, c'est-à-dire parler de Jésus, est quelque chose qui va nous permettre d'aller de l'avant avec Dieu. Et ce qui est formidable, c'est que l'annonce de l'évangile offre non seulement une opportunité à quelqu'un de rencontrer Jésus, mais c'est également quelque chose qui renforce notre propre foi en Jésus. Voilà. Partager ce que Dieu nous a donné n'est pas quelque chose qui nous appauvrit, mais quelque chose qui nous enrichit au contraire et qui nous aide à aller de l'avant et à résister au diable et aux doutes qu'il voudrait semer en nous. Autre arme, verset 16, « Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. » Un bouclier, c'est un écran de protection qui stoppe net les flèches et qui les empêche de nous atteindre. Eh bien, notre écran de protection, à nous, c'est notre foi. C'est-à-dire, c'est notre confiance en Dieu. En toutes circonstances, et en particulier lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes assaillis par le doute, nous devons placer notre confiance en Dieu. La foi, la confiance en Dieu, dès le départ, est ce qui empêche le feu destructeur du doute de se développer en nous. Et puis verset 17, « Faites aussi bon accueil au casque du salut. » Le casque, c'est quoi? C'est l'ultime protection contre la mort. Voilà, c'est ce qu'on met quand on veut vraiment se protéger. S'il n'y a qu'une seule protection qu'un motard met, c'est un casque. Eh bien, nous devons nous rappeler que grâce au sacrifice de Jésus, nous avons l'assurance de notre salut. C'est-à-dire que nos péchés passés, présents et même futurs sont pardonnés et que nous avons déjà obtenu la vie éternelle. Et ce salut accordé une fois pour toutes est quelque chose qui nous libère de la peur de la mort. Et Satan le sait, il est très difficile de combattre quelqu'un qui n'a plus peur. Et ça, c'est qu'est-ce que les armées essayent absolument à faire chez leurs ennemis, c'est à susciter la peur. Parce qu'un ennemi qui n'a plus peur est un ennemi qui osera aller de l'avant. Eh bien, savoir, nous rappeler que Dieu nous a sauvés, non pas sur la base de ce que nous avons fait, mais grâce au sacrifice de Jésus, est quelque chose qui nous libère de la peur et qui nous permet vraiment d'aller de l'avant. Et puis la dernière arme est à la fois défensive et offensive, suit du verset 17, « Faites bon accueil à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » C'est en nous appuyant sur ce que Dieu nous dit dans sa parole que nous devons nous défendre contre les mensonges du diable. Mais cette parole nous permet également de contre-attaquer et de faire connaître la vérité là où règne le mensonge. Et dans notre combat contre le mal, dans notre vie avec Dieu, dans notre combat également contre le péché, contre le mal dans ce monde, nous disposons là d'une véritable arme offensive qui est la prière. Verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » C'est Dieu lui-même qui, par son Esprit qui vit en nous, nous encourage à mener notre combat contre le mal en le priant. Paul nous dit en 2 Corinthiens 10, 4, « En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. » Des fois, on a l'impression que le mal est comme une forteresse qu'on n'arrive pas à renverser. Bien, il nous dit que par la prière, Dieu peut renverser les prières. Prier, c'est manifester que nous avons pleinement confiance en Dieu. Et puis, c'est compter sur la toute-puissance de Dieu. Mais bien sûr, le combat contre le mal passe aussi par nos propres actions. Et nous ne pourrons pas, bien sûr, éradiquer tout le mal qui se commet, qui se produit sur cette terre. Mais nous pouvons déjà commencer à chercher à le faire disparaître de notre propre vie. Parce que souvent, c'est par la vie des uns ou des autres que le mal se propage. Eh bien, nous devons commencer déjà par combattre le mal qui est en nous, lorsque nous l'identifions, mais également nous pouvons nous joindre. Il y a tellement de bonnes choses qui sont faites, qui sont proposées dans ce monde pour nous impliquer, pour lutter contre le mal. Eh bien, nous avons aussi ça. Même si c'est qu'une goutte d'eau, une goutte plus une autre goutte finissent par faire un océan. Ce que nous devons en tout cas comprendre, c'est que le combat contre le mal, ce n'est pas seulement pour les autres. Ce combat nous concerne également. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, la victoire totale contre le mal est une certitude. Colossiens 2,15. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mais en attendant ce jour, nous devons encore combattre les poches du résistance, du mal. Pour ceux qui le souhaitent, je vous invite maintenant à prier de notre combat contre le mal. Seigneur, merci car tu as déjà remporté la victoire finale contre le mal. Seigneur, pardon pour les fois où moi-même j'ai pu commettre le mal. Je te demande pardon pour les péchés dont tu m'as fait prendre conscience. S'il te plaît, aide-moi à discerner les autres. S'il te plaît, aide-moi à me détourner du mal. S'il te plaît, aide-moi à placer pleinement ma confiance en toi plutôt que de céder au doute et d'être dans la confusion. Merci parce que je sais que tu me protégeras et que tu m'aideras dans ce combat contre le mal. Et merci parce que c'est par ta puissance, par la puissance de ton esprit, que Seigneur, nous serons vainqueurs dans ce combat. Amen.